de 6-2 face à ce même régiment de Terre-Neuve. Voyage à Bécomo en fin de semaine. Et dans l'NFL, hier soir, les Rams qui ont eu le dessus 34-7 sur les Bucks de Tampa Bay. Baker Mayfield qui a subi une blessure, puis ça semblait pas chic. Là. On va avoir plus de détails aujourd'hui, mais ça regarde pas bien. Et ce soir, Panthers 49ers au Monday Night Football.
C'est à ne pas manquer. David Chabot, chroniqueur politique international, homme de théâtre. Salut!
Ben justement, je suis allé au théâtre vendredi soir.
Ben oui!
Je t'ai vu sur scène en bobette.
Oui. D'ailleurs, sur les 20 photos que tu m'as transmises, je me vois le cul avec mes bobettes de boulevard.
Que j'ai choisi mon spot, hein, oui. Je me suis dit, où c'est que je vais voir le plus ces bobettes?
Sérieux, je sais pas si tu me l'avais dit, mais je m'attendais pas à te voir là. Je me disais que c'était pas ton type de soirée. Je te remercie d'être venu puis de t'être prêté au jeu. Je pense que t'as apprécié ta soirée.
Ben, j'ai été surpris, pour vrai. Ouais. Surtout le premier combat, là, ça revolait dans les airs, des backflips.
Hey, c'était
avec
bon,
Travis Toxic puis Ian Pike.
Ah oui, c'était un bon show. Là. Ouais. T'sais, y a les combats sont forcément un peu inégaux, mais il y en avait des vraiment intéressants. Le bonhomme, oui, monsieur!
Ah, c'était mon préféré, ça. Oui, monsieur!
Hey, des personnages!
Toi, Max, t'étais dedans, là.
Tu trouves?
J'étais juste à côté de toi, je sais pas si t'as vu, là.
T'étais pas à côté. T'étais à peu près à 5 mètres de Max, là.
Ah, mais il criait tellement fort, c'est comme si j'étais à côté.
Il a fait virer le bord tout seul.
En tout cas, il y avait du fun.
La fille était tannée de le voir. À la fin, à la fin, elle pitchait les canettes pour pas qu'il s'approche. Comme on pitch des peanuts.
moi, c'est des paps.
Ouais, fait que t'as apprécié?
Oui, j'ai beaucoup apprécié ton front flip qui était directement dans ma face, finalement. Là.
Oui.
Quel athlète, les gars.
Ça, c'est ce qui m'a fait le plus peur parce que tu sais jamais comment tu vas tomber. Les gars m'ont dit, Yann, on va se blesser avant de te laisser te blesser. Pour les gens qui n'étaient pas là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pitché dans les câbles. J'ai pris de la vitesse, je me suis pitché dans l'autre corde, puis après ça, j'ai sauté, j'ai pogné la troisième corde, puis là, il fait pas clair, là. Tu sais, c'est une lumière qui est tamisée, là. Je sais pas vous autres, là, comment vous voyez avec une lumière tamisée, mais tu vois pas, ben. Puis je me suis soigné sur la troisième corde, puis j'ai fait un genre de 360 dans les airs, puis les gars devaient m'accueillir sur un plancher qui est en béton, là. Puis j'ai pas eu mal.
Ah non, ils ont été forts pour vrai. Puis c'est pas parce que je veux plugger ma page Facebook. Je l'ai mis sur ma page Facebook, les gens qui sont curieux de voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Là. Virginie, dans le fond, qui saute du troisième.
Ouais.
Puis après ça, toi, tu fais le front flip. T'as fait un abat, finalement. Tout le monde a tombé à terre.
Exact.
Dès le début du match, ça a donné le ton au match. Ouais. La fin avec les portes.
Ah, les portes défoncées. Puis
c'était la première fois que tu voyais un gala de lutte.
Oui, oui. Puis surtout d'aussi proche que ça. Là. Évidemment, à la télé, on a tous déjà vu ça, mais.
Puis ton ami avec qui t'es venu, qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu as dit tu étais au gala de lutte avec moi?
Ça, c'est drôle parce que ça, c'est ma collègue, c'est Salem. Puis, tu sais, dans le fond, on est allé déjà au théâtre dans une patente expérimentale qui était vraiment comme il fallait que tu aies beaucoup d'ouverture d'esprit. Tu sais, ça, c'était la première fois où on est comme sorti, on va dire, ensemble parce qu'évidemment, c'est une collègue, là, on se comprend. Puis là, on s'en va à la lutte. Après, en deuxième fois, elle a dit, elle est française, elle a dit, du coup, là, tu peux m'amener à des choses régulières des fois? Je suis comme, excuse-moi, là, regarde, c'est ça la vie. Elle a bien ça. Puis elle t'a pas haï en bobette non plus. Fait que, tu sais, ça a bien fait qu'on soit là.
Il y a des gens qui m'ont insulté. Hein. Ils m'ont écrit en me disant. Tu skips les leg day, Marceau. Ça a l'air que je m'entraîne pas le bas du corps.
Ben, tu leur diras, tu viendras faire des flips à la scène si t'es meilleur que moi.
C'est ça.
Hey, m'a dit, mais pour vrai, par exemple, tous les gars avaient des méga cuisses, là.
Ouais, à part moi.
Ben, ouais. Mais je veux dire, t'es un athlète naturel.
Oui, mais c'est parce qu'au décaqué, t'as pas besoin de t'entraîner tant que ça le bas du corps, là.
Non, t'es plus dans l'endurance.
Exact.
Là, t'es dans la force brute, mâle.
Puis, très honnêtement, avant lundi, je savais pas que j'allais mettre des bobettes.
C'est sûr.
Il a fallu que je me parle.
Ah ben, mais pour vrai, ça aussi, les gars n'ont pas de jackstrap. C'est pas parce que je regardais là particulièrement, là, mais tu sais, ils n'ont pas de jackstrap. Un coup de genou mal placé, ça te scrape une soirée.
C'est franc bisoun.
Franc bisoun.
C'est franc bisoun. Mais ça a été une belle soirée. Merci beaucoup d'être venu dans la foule nous encourager. On entendait plus Max, là, mais je sais que tu étais là. Ça m'a fait chaud au cœur, mon ami. On a ramassé 25 500 $ à peu près pour les gens de la bouchée généreuse. Puis encore un peu de sous qui rentre ce matin. Fait que si on est capable de se rendre jusqu'à 30 000, Jeff, ce sera un 50 000 qu'on aura donné en 2 ans.
Exceptionnel.
Aux gens de chez
nous. On vient de recevoir un texto d'ailleurs. Merci pour la belle soirée.
mon fils qui est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme a besoin des paniers de Noël pour vivre dans le temps des fêtes. Alors, on fait vraiment une différence.
Ah, c'est touchant. Puis c'est la radio locale, ça sert à ça. Ça sert à parler des choses qui se passent chez nous, mais surtout aider les gens de chez nous. Puis je l'ai dit un peu plus tôt ce matin, mais moi et Steve, quand on était jeunes, on n'était pas dans des familles qui étaient très aisées. On a bénéficié de ces paniers-là, des paniers de Noël dans notre cas. Puis on voulait redonner. Puis c'est la façon pour nous autres, plus tard, en étant plus vieux, de redonner. Puis ça fait peut-être du bien à ceux qui reçoivent, là, mais je peux vous dire que quand vous organisez quelque chose, puis c'est un succès incroyable, puis c'est des milliers de dollars que tu remets à des gens qui sont moins bien nantis, t'as l'impression que c'est ça, être un être humain. Mmh. Un être humain. Redonner aux autres. Puis ça fait vraiment du bien. Mmh. Moi et Steve m'a encore écrit ce matin, là, on est aux anges depuis vendredi soir. Ça a fonctionné. Puis ça, c'est grâce à toute la machine de Leclerc Communication, la NSPW, puis tous les auditeurs qui se sont pointés ce soir-là. Donc, un gros merci. David Chabot, chroniqueur international, tu nous parles encore une fois de Donald Trump.
Oui, mais je te parle de lutte, mais une autre forme de lutte. Donc là, gros développement dans la guerre en Ukraine. Là, ça fait longtemps que ça bouillonnait tout ça, d'avoir un plan de retour à la paix, une espèce de plan de négociation. On semble triper beaucoup sur le chiffre 28 parce que là, les États-Unis ont fait. Ça l'a leaké. Donc, officiellement, c'était pas une sortie officielle, mais 28 points pour ramener à la paix. L'Europe a relancé avec un autre 28 points modifié. La Russie a pas parlé beaucoup là-dessus. Donc, en tout cas, bref, c'est une situation un peu embêtante. Ils sont en Suisse en ce moment, là, puis en plus de manger du chocolat puis du fromage, ben, ils discutent de qu'est-ce qui va se passer en Ukraine. Donc là, j'ai séparé, mettons, le qui est assez lourd à lire quand même s'il n'est pas très long, mais en termes de ma perception du positif, négatif, puis une section weird qu'on pourra adresser à la fin. Donc, dans les positifs, là, le plan proposé, qui n'a pas été par ailleurs validé par la Russie, là, ça je fais une parenthèse en commençant, c'est un plan qui est annoncé par les États-Unis, qui est négocié avec l'Ukraine, mais que la Russie se garde le droit de dire oui ou non à la fin. Ce qui est la meilleure possibilité, dans le fond, pour eux, pour la Russie, mais la paix pour l'Ukraine. Parce que là, tu te fais négocier une première fois, puis là, après ça, la troisième partie peut dire oui ou non, puis renégocier ensuite. Okay. Donc là, t'es pas dans une position de force du tout. Mais dans les positifs de tout ça, reconnaître la pleine souveraineté de l'Ukraine, ce qui est quand même assez nécessaire. Là, on peut dire qu'une fois pour toutes, c'est un pays qui reste et qui va exister. Certaines garanties de sécurité aussi à long terme. Donc, de dire une fois que la guerre est finie, ben là, on va s'assurer que tu ne te fais pas réenvahir. Là. Tout ça sur papier, évidemment. Là, un contrat, c'est fait pour être brisé, mais bref.
Mais jamais ils n'intégreront l'OTAN.
Ben, c'est ça. Ça, c'est dans les négatifs que je vais y venir. Là. En gros, dans le fond, dans le plan, on utilise une partie des fonds russes pour reconstruire l'Ukraine parce qu'on sait qu'il y a des fonds russes qui avaient été gelés. Puis il y a un retour des traités de non-prolifération. C'est tôt pour un long mot de même. Nucléaire, donc comme le START, là, donc pour ceux qui connaissent ça un petit peu plus. Puis l'Ukraine ne sera jamais un pays nucléarisé. Donc là, ça, c'est dans les positifs ou en tout cas dans les évidences. Dans les négatifs, ben, comme tu dis, l'OTAN ne peut plus grandir en Europe. Donc là, ça dépend de notre perception dans ce dossier-là, mais quand je parle de négatif, c'est pas nécessairement que je voudrais absolument que l'Ukraine grandisse. Ce que ça veut dire, c'est que l'OTAN n'a pas le plein pouvoir sur son développement. Dans le fond, c'est la Russie va avoir un droit de veto.
Ça, c'est ce qui va faire plaisir au président de la Russie.
Ah ben 100%.
Parce que lui veut un coussin de sécurité entre son pays et l'OTAN. Puis l'Ukraine fait partie de son coussin de sécurité.
Oui, absolument.
Autre point qui va satisfaire Vladimir Poutine, c'est le gain territorial.
Ben c'est ça, je vais y arriver, là, mais il y a deux territoires là, qui sont déjà partiellement conquis. Donc, ben, évidemment, la Crimée, ça fait longtemps que c'est acquis, là, mais le Luhansk et le Donetsk. Donc là, c'est deux sections à l'est de l'Ukraine qui sont déjà partiellement, mais pas complètement conquis. Ça, c'est un gros enjeu parce qu'on en avait déjà parlé ensemble, mais il y a comme une ceinture de fortification là, à l'est de l'Ukraine qui s'appelle le Fortress Belt en anglais. Là. Donc là, en donnant ces territoires-là, on tombe à conquérir en arrière de cette forteresse-là. Donc là, l'Ukraine se retrouve un petit peu les bobettes à terre
pour faire isolé,
c'est ça, pour faire une allusion à la lutte. Donc là, ça, c'est quand même un gros problème. Puis c'est cédé sans compromis, dans le fond. C'est à la Russie demain matin, puis that's all. Puis il y a d'autres secteurs aussi que la Russie avait partiellement conquis qui vont laisser libres. Donc, Kherson et Zaporizhia, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Mais ça, c'est assez mineur. Mais donc, l'OTAN, c'est le gros point. Réduction de l'armée de l'Ukraine aussi. Donc, passer actuellement sont environ 800 000 soldats actifs là, à 600 000 à long terme.
C'est un point dangereux, ça. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas dit que la Russie... profitera pas de cette pause-là pour se réarmer, refaire sa structure militaire et réattaquer l'Ukraine par la suite.
Bien, c'est ça qu'on en dégage de tout ça, finalement, là, au-delà des points que je vous aligne un arrière de l'autre, là. C'est un traité qui serait très favorable à la Russie, qui leur donne une position de, comme tu dis, reprendre son souffle, reconstruire son armée. Puis en attendant, il dit, ben non, mais je ne reconquérirai pas, je te jure, je suis tranquille. Puis, je ne veux pas faire le point Godwin, mais je vais le faire pareil. Rappelons-nous, en 1939, je pense, quand le premier ministre Chamberlain britannique est allé à Munich rencontrer Adolf Hitler, puis il est revenu avec un beau papier. Il est sorti de l'avion, il a agité le papier dans les airs, puis il a dit « La paix est assurée à long terme, parce qu'Hitler m'a dit que ça arrivera jamais. »
Pouf!
Puis quelques mois plus tard, t'as eu la Pologne. Donc là, je vous dis pas que c'est le cas en ce moment, mais c'est un peu similaire comme situation quand même. Là.
Mais la grande perdante là-dedans, c'est l'Ukraine qui se fait dicter tout ce qu'elle doit faire pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années. Perte de territoire. Ils obtiennent quoi, l'Ukraine? Pourquoi Volodymyr Zelensky décide d'embarquer là-dedans, de se faire dicter que... Hey, c'est quand même capoté, là. De se faire dicter, tu peux pas avoir 800 000 soldats, faudrait que tu descendes à 600 000 à peu près, ou 500 000, parce que l'autre bord a peur de l'Ukraine.
Écoute,
ils perdent de tout.
Ah oui, c'est une défaite totale si ça arrive. C'est pour ça que l'Ukraine s'est braquée autant que ça. Mais ils continuent quand même à avoir un dialogue parce que forcément, ils sont en guerre pareil. Puis à un moment donné, pour le pays, c'est difficile parce que là, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes ou ont été blessées gravement pendant cette guerre-là. Puis je pense qu'à l'interne, c'est difficile de recruter malgré le fait que c'est une guerre nationale.
L'Europe va se positionner comment? T'sais, l'Europe ne peut pas se positionner pour un accord comme ça parce que c'est laissé beaucoup trop de pouvoir à la Russie. Puis c'est craindre que la Russie tente des avancées territoriales ailleurs.
Bien, c'est sûr que c'est ça leur grande crainte. Là. Le plan européen en 28 points qui a été relancé en fin de semaine dimanche, là. C'est comme tout le monde a été pris au dépourvu dans cette histoire-là, parce que tout le monde sait qu'il y a des négociations en Suisse, mais personne ne savait qu'il y avait un plan qui allait sortir. Donc là, l'Europe a sorti le sien, très, très fortement inspiré de ce qu'on vient de discuter là, mais avec certaines modifications quand même assez substantielles pour eux, premièrement, ils disent que la Russie ne peut plus envahir de pays voisins, OTAN ou pas. Donc là, c'est pas ce qui était dans le plan initial. Ils parlent pas de l'Ukraine puis de l'OTAN non plus, l'Europe. Donc là, pour eux, ils se laissent une place à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Il y a des discussions par rapport à une centrale nucléaire là, dans la région que j'ai de la misère à dire, là, Zaporizhia.
Oui, puis là, on parle de 50-50 ouais. Entre les Russes et l'Ukraine, et pourtant, c'était l'Ukraine qui l'avait à 100% celle-là.
Absolument. Donc là, le contrôle de cette centrale nucléaire, selon l'Union européenne, devrait être européen. En fait, la Fédération atomique internationale, là, c'est pas ça le vrai mot, mais en tout cas, cette organisation-là, pour eux, les fonds qui sont gelés doivent être 100% utilisé pour reconstruire l'Ukraine et non pas donner aux États-Unis, dans le fond, pour le privilège de la garantie de sécurité. Bref, tu sais, l'Europe a quand même une position nuancée, si on veut, par rapport à cette proposition-là. L'affaire, c'est que le premier traité ou la première proposition qui est rendue publique, c'est celle-là sur laquelle tout le monde va s'arrimer. Puis là, il y a eu beaucoup de discussions en fin de semaine, puis là, on ne sait pas vraiment la vérité là-dedans. À savoir, qui a écrit ce fameux draft de 28 points? Parce que la façon que c'est écrit, selon certains spécialistes linguistiques, ce qu'ils disent, c'est que ça ressemble beaucoup à une structure russe qui a été traduite,
ouais.
Vers l'anglais. Donc là, la question, c'est, y a-tu quelqu'un à quelque part à Moscou qui a dit, tiens, ça serait ça qu'on voudrait avoir? Puis là, boum, on met ça dans Google Translate, puis là, c'est devenu ça les points de discussion en Suisse. Il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, beaucoup d'interrogation, même des républicains affirment que ça ressemble beaucoup trop à un setup où ce que la Russie, dans le fond, prend les États-Unis comme une genre de marionnette pour atteindre tous ses objectifs. Puis froidement, là, au-delà de ce qu'on pense de la guerre puis de qui a raison de qui ou de quoi là-dedans, c'est un traité qui est beaucoup, beaucoup favorable envers la Russie versus l'Ukraine. Donc là, le message que ça lance, finalement, c'est envahissez vos voisins. Si vous êtes prêt à payer le prix pendant 2-3 ans, après ça, vous allez avoir toutes les gains que vous avez voulu avoir.
Trump, sur Truth Social, a mentionné que les responsables ukrainiens ont exprimé aucune gratitude pour les efforts des Américains pour régler le conflit. C'est rien pour aider, ça.
Ah, puis tu sais, Trump, là, je veux dire, Trump, c'est Trump, là, mais une journée, il dit « Ah, là, la guerre en Ukraine, il faut que ça arrête. Je veux un plan de paix. Je veux le forcer dans la négociation. » L'autre journée, il dit « Ah, l'Ukraine va gagner. Il va reconquérir tous ses territoires. » Il a dit ça il n'y a pas si longtemps que ça. Il revient ici, il dit que l'Ukraine, c'est les pires bâtards de la planète. Là, à un moment donné, il faudrait se décider. Okay.
Puis je te pose une question comme ça. Est-ce qu'un jour, on va être, mettons d'ici 2030, là, on va se dire « Les conflits ailleurs, ça ne nous regarde plus. »
Ça peut pas nous regarder. Parce que tu sais, en fait, je suis en train de lire justement un livre là, à la maison sur l'influence américaine qui est
parce que
est
ça nous fait dépenser de l'argent, ça nous fait perdre des hommes, puis ça nous fait peut-être de l'autre côté gagner de l'argent, parce que nécessairement, les États-Unis, ils sont des spécialistes là, pour ce qui est de l'armement. L'argent revient, là, nécessairement, mais c'est souvent des conflits qui ne nous regardent pas.
T'as raison, mais tu sais, il y a une phrase que j'aime bien localement. Si tu t'intéresses pas à la politique va s'intéresser à toi. Ben, c'est un peu la même chose en géopolitique. Si tu restes dans ton bord et t'es isolé, forcément, tu vas l'avoir dans la face. Les États-Unis l'ont vécu, encore une fois, la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils sont restés de leur bord. Évidemment, ils étaient semi-impliqués dans la guerre en Europe. Là, ils envoyaient des armes en Russie et tout ça. Mais en décembre 1941, boum, il y a des centaines d'avions qui sont débarqués du ciel puis ils ont tout arraché à Pearl Harbor parce que, dans le fond, ils se sont pas protégés adéquatement puis ils ont pas voulu endiguer cette genre de menace-là. Je suis pas zéro fan de la guerre, comme n'importe qui, je veux pas que le monde meure, là, je veux dire, c'est assez évident. Sauf qu'à un moment donné, il y a comme une espèce d'utilisation de la force puis de la menace qui doit être nécessaire pour encadrer, si on veut, les forces qui sont des menaces pour toi comme pays. Puis là, ça veut pas dire de partir en guerre, par exemple, contre la Chine, mais si tu les laisses aller à 100% puis tu les encadres pas, ils vont aller jusqu'au bout de leur rêve, puis leur rêve, c'est pas nécessairement le tien. Là. Donc là, toute la stratégie, dans le fond, de la guerre froide qu'il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale, c'était, en anglais, le containment. Donc là, c'est Eisenhower qui a mis ça en place. Il a dit, le communisme est une menace à notre mode de vie, donc là, on doit le contenir. Ça veut pas dire nécessairement de faire la guerre avec, mais ça veut dire que s'il y a une avancée dans un pays, il faut s'assurer que cette avancée-là est soit reculée ou encadrée. Puis de notre côté, la démocratie, là, c'était comme l'équipe démocratie contre l'équipe communiste, là. Ben, la démocratie doit aussi faire des gains ailleurs pour essayer de contenir puis contrebalancer, dans le fond, l'influence soviétique à travers la planète.
Parce que si on laissait les Russes s'installer de plus en plus en Europe, comme si on avait laissé l'État islamique s'installer de plus en plus, ben, veut pas, le pouvoir des démocraties serait encore plus réduit.
Ben, le message en ce moment, c'est surtout... tu vas envahir un autre pays puis il n'y aura pas de conséquences. Puis là, en Europe, il y en a d'autres pays limitrophes qui ont la petite sueur dans le front. Là.
Mais tu n'as pas l'impression qu'un jour, les États-Unis vont se retirer de l'OTAN?
Ben en fait, j'espère que non. Parce que si l'Europe n'a pas les États-Unis dans l'OTAN, l'OTAN peut exister sans les États-Unis, sauf que ça va être beaucoup plus fragile. Puis oublions pas aussi une chose, c'est que l'Europe, traditionnellement, là, dans l'histoire de la planète, là, ça a été l'endroit où il y a eu le plus de guerres. Donc, ils aiment ça se taper sa gueule.
Voilà.
Donc là, l'OTAN vient un peu calmer le jeu parce que finalement, une des deux moitiés, si on veut, du continent se fait dire « Ben là, man, c'était pas tranquille, j'envoie le grand frère avec les tatous ses bras. » Fait que là, ouais, tu y penses à deux fois avant de commencer à faire la guerre. Là, t'enlèves les États-Unis puis la menace qui vient avec, nucléaire, tout ce qui vient avec.
Okay. Mais je vais te répéter, c'est quoi l'avantage des États-Unis de s'immiscer dans toutes les guerres?
Ben, en fait, moi, te poser une autre question en échange de
c'est
ça.
C'est l'argent.
Ben, oui, évidemment, forcément.
C'est l'argent. Bon, puis Pierre,
ça, à un moment
donné,
pas juste ça.
Il y a moins de monde sur la planète, on va se le dire.
Ben, en fait, sais-tu quoi, je vais faire une réponse un peu plus généraliste. C'est toujours l'argent, mais c'est pas à cause de ce qu'on pense. C'est pas nécessairement le contrôle du pétrole ou des ressources naturelles. Il y a ça souvent. Mais plus tu es dominant sur la planète, plus tu peux mener tes affaires comme tu le souhaites. Donc là, oui, il y a les grands idéaux de démocratie qui ont été utilisés comme prémisse dans le passé.
Parce que Trump l'a déjà dit, il est écœuré de voir nos hommes aller se faire tuer ailleurs pour des conflits qui ne nous regardent pas.
Ouais, mais le problème, c'est que ta sécurité nationale va être en danger. T'sais, laisse les Russes prendre le contrôle, là. Laisse les Russes augmenter leur puissance nucléaire, laisse l'État islamique prendre en expansion. Ouais. C'est des attaques sur ton territoire que tu vis après ça.
Ce serait quoi l'avantage de l'État islamique de venir nous faire suer en Amérique si on cesse de les faire suer là-bas?
Ben, ça serait quoi l'avantage? Ça serait de faire descendre deux tours comme ils ont fait?
Tu sais, dis-toi...
C'était des répliques, Jeff.
Ouais, mais...
C'est pour ça que je te dis... Tu sais, Trump l'a déjà dit, puis j'ai l'impression que son dessein à long terme, là, c'est vraiment de se recroqueviller puis de se dire, ben ça va être l'Amérique qui va se défendre. Puis si vous attaquez l'Amérique, ça va être l'enfer. Sinon, on va être là pour...
Ouais,
on est open for
c'est
business.
C'est des gens qui font la guerre au système occidental.
Ça se peut. Mm.
Je suis totalement d'accord avec ça. On parle de l'ISIS, c'est assez différent, évidemment, de la Russie, mais leur objectif, c'est la chute de l'Occident. Là. Fait que t'as beau rester chez vous et dire, regarde, moi, je me désengage, puis vous avez raison, ils vont venir te chercher pareil.
Parce que Trump en a déjà parlé. Là.
De quoi? Du désengagement.
Il était écœuré des guerres.
Là. Oui, absolument. Mais tu sais, en même temps, il envoie du monde vers le Venezuela, puis il commence à faire de la menace pour envahir le pays, puis tout ça. Fait que là, finalement, c'est qu'il est écœuré des guerres.
Il fait sauter des bateaux.
Ouais, OK. Il contrôle le trafic.
Hein? Vendeur de drogue! Enter! Boom!
Ça, c'est comme quand t'es sur l'autoroute et t'as une pancarte qui dit la vitesse est contrôlée par avion puis t'es vois jamais les avions.
C'est
là.
Ça.
Ben là, c'est la vitesse en bateau. Mais c'est ça. À quelque part, je pense qu'il est écœuré des guerres que lui a pas générées là-dedans. Puis tu sais, je suis pas de ceux qui disent que Trump c'est le parfait imbécile, mais en même temps, des fois, c'est un peu irrationnel qu'est-ce qu'il dit. Là, c'est beaucoup de la relation publique ce qu'il fait, là, c'est de la politique de show business. Puis d'un côté, il dit ça parce qu'il sait que ça pogne dans son auditoire, de dire retirons-nous, soyons autonomes. Puis de l'autre côté, ben là, oups, ça fait son affaire d'envahir ailleurs, ou en tout cas d'être militant. Là. Donc là. Mais à long terme, là, philosophiquement, c'est une question qui est valide là, de dire est-ce qu'on continue à s'impliquer dans les organisations internationales, dans l'OTAN, dans l'ONU qui est un peu inutile ces temps-ci, puis d'autres organisations comme ça, où on fait nos propres affaires, on fait nos propres deals, on négocie nos propres patentes, mais... Tu sais, l'influence d'un pays, c'est quand t'es membre de d'autres groupes et t'influences ces groupes-là. Parce que d'influencer tous les pays à la pièce, c'est de la peau pas mal. Mais si t'influences l'ONU d'un coup, mettons, ben là, c'est tout le monde qui va suivre en même temps. Donc c'est ça, dans le fond, l'avantage d'avoir une influence sur ces grandes organisations-là, sur l'OTAN et tout ça, c'est de dire, ben ma participation est tellement majoritaire que je vais décider pour vous où on s'en va, puis ça va être à mon avantage. Puis il y a bien des gens, bien des pays qui ont trouvé ça injuste, notamment pendant la guerre froide, on y revient souvent, mais dans la vraie vie, ça a avantagé beaucoup les États-Unis. Là. Parce que, tu sais, après 45, après la fin de la guerre, là, il y a eu la reconstruction en Europe, le plan Marshall, les États-Unis s'en sont mis plein les poches, puis par après, là, ça a été la période de forte croissance où la vraie richesse américaine, c'est là que ça s'est créé, là. Donc là, maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Économiquement, c'est moins facile aux États-Unis. Il y a eu la mondialisation, il y a eu tout ce qui vient avec. Mais au lieu de se... réorienter vers des modèles économiques plus rentables à long terme, puis il y a quand même une volonté de faire ça là, avec l'intelligence artificielle puis les microchips, ces choses-là, bien, les États-Unis, dans le fond, ils ont essayé de continuer à utiliser leur levier d'influence pour vraiment forcer leur dominance économique ailleurs. Puis ça, dans le fond, il y a eu un gros kickback. La Chine a décidé que c'était fini, puis là, bien, c'est là qu'on en est maintenant. Là.
Poutine va se réarmer?
Ben, assurément, l'industrie, le complexe industriello-militaire, c'est toujours difficile à dire ça, comme expression, mais en réalité, c'est ça qui soutient en ce moment la Russie.
Dans les 28 points, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a quelque chose qui touche la Russie? Parce que là, on demande aux Ukrainiens de ne pas avoir une armée plus grosse que tant de soldats. Est-ce que de l'autre côté, il y a des concessions de la part de Vladimir Poutine?
Absolument pas. la seule concession.
Je te garantis que Volodymyr Zelensky ne restera pas là. Une fois que le plan va être fait, lui, il s'en va. Là. Il s'en va vivre dans un autre pays. C'est fini.
Ben, Zelensky, ben, en fait, dans le 28 points, il y en a un qui c'est d'avoir une élection dans les 100 premiers jours après la paix.
Bon, donc, il n'y aura même pas d'élection. Il va s'en aller vivre en France. Là. Ça va.
Ben, probablement, parce que là, les conséquences. Mais oui, le réarmement de la Russie, c'est déjà actif en ce moment. Ils sont en train de moderniser tout ça. La seule question, c'est ils vont-ils avoir l'argent de leurs ambitions? Parce que oui, l'énergie, c'est bien important. Puis ça, Trump, d'ailleurs, a donné une bonne claque en arrière de la tête à l'Europe en disant. Oui, oui, vous êtes beau là, sur vos grands choix à nous dire comment gérer la guerre en Ukraine puis la paix, mais arrêtez donc d'acheter du gaz puis du pétrole russe de votre côté, puis on va voir si vous êtes sérieux dans vos histoires. Puis il y avait quand même pas tort là-dedans.
Non, ça c'est clair là, que l'Europe parle des deux côtés de la bouche comme Donald Trump peut le faire une fois de temps en temps aussi.
Exact.
David Jabot, ça a été un plaisir.
Merci à vous les gars.
Salut. Merci à toi. Sur la route?
20 est à partir de route Lagueux ou en fait un petit peu après, c'est au rouge. 113 nord à partir de rue Beaulieu. La 20 ouest, Jamé, un peu avant chemin des îles jusqu'au pont. Et sinon, rive nord, c'est quand même vraiment pas si pire ce matin. Capitale ouest, je vous dirais, entre Henri-Bourassa et Laurentienne au rouge. Il y a aussi Laurentienne sud vers la capitale à partir de boulevard Le Bourgneuf, je vous dirais.
8h18, Denis Gravel, ça mène. Boulevard.